France Culture.
Une boussole pour la compétitivité, voilà ce qu'a présenté mercredi dernier, avant-hier, donc la Commission européenne à travers sa présidente Ursula von der Leyen. Un véritable business plan, selon certains, un détricotage en règle des ambitions, notamment environnementales, de l'Union européenne pour d'autres. Car si un message est passé, c'est bien celui-ci. L'horizon pour les 5 prochaines années doit avant tout se dégager, autrement dit, se débarrasser des normes, alléger la réglementation européenne qui pèse sur le fonctionnement et le budget et donc la compétitivité des entreprises européennes. Ces dernières mettent en effet depuis longtemps en avant ce fardeau administratif soutenu par leurs gouvernements respectifs dans la plupart des cas. Une question se pose: au nom de quoi cette compétitivité brandie comme un totem est-elle réellement incompatible avec des objectifs de plus long terme? De quoi les entreprises européennes ont-elles réellement besoin pour ne pas se laisser distancier face à la concurrence mondialisée? S'adapter avec pragmatisme, simplifier sans déréguler, voilà l'équilibre à tenir. Reste à savoir avec quelle méthode et pour construire quoi ensuite. Des questions que nous allons poser jusqu'à 15h dans cette émission programmée et préparée par Bruno Barada, réalisée par Cassandre Puel et Françoise Le Floch, et mise en onde aujourd'hui par François Saint-Jour. Les trois invités sont avec nous autour de cette table ronde et pour répondre à toutes ces questions, Benoît Blotin, vous êtes maître de conférences en droit public à l'Université Paris-Saclay et co-directeur du laboratoire d'études de droit public. Vous avez cofondé l'Observatoire du Pacte Vert. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de votre invitation.
Peut-être un petit mot sur cet Observatoire du Pacte Vert. Quelle est sa mission, son but, c'est la raison peut-être aussi de sa cofondation?
Oui, alors comme son nom l'indique, c'est un observatoire donc qui vise à analyser les différents textes issus de ce fameux programme, le Pacte Vert, qui fait couler beaucoup d'encre. Le Pacte Vert, tout d'abord, c'est un programme politique qui a été lancé par la Commission européenne. Et à partir de ce Pacte Vert, on a un très grand nombre d'initiatives législatives qui ruissellent un peu dans plein de domaines. On pourrait peut-être y revenir. Et donc, pourquoi un observatoire? Eh bien, parce qu'on a vu avec plusieurs collègues chercheurs, enseignants-chercheurs en droit, en sciences politiques, qu'il y avait un très gros morceau, si j'ose dire, avec un empilement de normes, de textes qui touchent parfois l'environnement et de plus en plus les questions économiques.
Donc des affaires à suivre et à suivre de près, c'est ce que fait cet observatoire. Anaïs Vagilis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géographie et chercheuse associée au sein du laboratoire CEREGE à l'IAE de Poitiers. Vous avez également été nommée en avril 2024 à la direction de la stratégie de la RSE d'un groupe qui fabrique notamment du bicarbonate et du bicarbonate de sodium, de la chimie minérale donc. Et votre ouvrage « Pour une révolution industrielle » apparu aux presses de la Cité le 16 janvier dernier. C'est donc tout récent. Et enfin, Vincent Charlet, vous êtes économiste, délégué général du think tank La Fabrique de l'Industrie, co-auteur d'un ouvrage intitulé « Crise énergétique en Europe et protectionnisme américain, la réindustrialisation compromise, point d'interrogation. » Et puis il faut également signaler la parution dans quelques semaines, le 13 mars prochain, d'un autre ouvrage aux sources de l'innovation de rupture, qui cherche, qui innove. Voilà des grandes questions, ce sera aux presses de l'École des Mines. Et donc vous en êtes l'auteur. Bonjour et bienvenue Vincent Charlet.
Bonjour.
We must make business much easier.
Nous devons rendre le business plus facile à travers l'Europe. Trop de talents s'en vont pour faire croître leur entreprise ailleurs. Et trop d'entreprises retiennent leurs investissements en Europe à cause de régulations superflues. Nous devons agir au niveau continental, national, et local. Et nous voulons donner l'exemple au niveau européen. Par exemple, nous lancerons une grande simplification de notre finance durable et du devoir de vigilance. Et nous nous assurerons de créer un environnement incitatif pour que nos entreprises grandissent, produisent et innovent en Europe. Mais je veux aller plus loin. Aujourd'hui, le marché unique est encore trop fragmenté par des barrières nationales et les entreprises doivent gérer avec 27 législations différentes. Pour les entreprises innovantes, nous voulons offrir un 28e régime juridique pour qu'elles puissent opérer partout dans l'Union avec un seul socle de règles. Un cadre unique et simple mettra à bas les barrières communes, car le niveau continental est notre plus grand atout dans le monde.
Nous lancerons une grande simplification. On entendait là Ursula von der Leyen qui s'exprimait mercredi 22 janvier dernier, et non pas avant-hier, mais là c'était à Davos. Et puis c'est une ligne qu'elle a tenue de fait lors de la présentation de cette fameuse feuille de route une semaine plus tard, il y a trois jours donc, devant la Commission européenne. Benoît Blotin, à quoi vient répondre cette annonce finalement de grande simplification ?
Alors, il n'y a pas de très grande surprise, en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le pacte vert et cet objectif de simplification de cet empilement de normes avait été annoncé dès 2023, en réalité, mais on sentait effectivement qu'il y avait plusieurs signaux envoyés par les entreprises pour demander d'être un peu plus libérées de toutes ces normes environnementales pour être plus compétitives à l'échelle internationale. Ursula von der Leyen a été réélue, il faut quand même le rappeler, avec cette promesse de faire une nouvelle mandature dirigée avec un mot d'ordre sur la compétitivité. Donc c'est pour ça qu'elle parle de boussole de la compétitivité. C'est comme si on cherchait encore un peu le chemin. En tous les cas, on ne veut pas trop sortir de ce qui pourrait nous mettre en difficulté. C'est une réponse en réalité, je pense, au monde industriel qui tirait la sonnette d'alarme depuis quelques temps.
Donc une réponse aux industries, aux entreprises. Vincent Charlet, vous écrivez dans une tribune récemment publiée dans Les Échos que dans les années 80, les repères étaient clairs. Nous imaginions tous que les lois de l'économie sanctionneraient durement la politique si elle s'aventurait sur des terrains inefficaces. Est-ce que la régulation, l'ensemble de normes qui s'appliquent aux entreprises et qui est aujourd'hui de fait dans cette forme de viseur de l'Union européenne, est de fait sont des terrains inefficaces? Et si oui, pour qui?
En fait, je pense qu'elles ont été rendues inefficaces par une accumulation de circonstances que personne ne pouvait tout à fait prédire, c'est-à-dire la réélection de Trump et ses velléités politiques absolument imprévisibles, la crise de l'énergie et le maintien d'un prix de l'énergie très élevé et plus élevé en Europe qu'ailleurs. Tout ça a constitué un empilement de difficultés qui a abouti à la situation que vous avez rappelée tout à l'heure, à savoir qu'effectivement, on est dans une période critique d'affaiblissement économique de l'Europe aujourd'hui, mais surtout de ses perspectives. Personne, même honnêtement guidé par la recherche d'informations claires, n'a le sentiment que l'horizon est engageant. Ça explique, je pense, pourquoi est-ce que cette réaction politique arrive maintenant.
Et ce qui est intéressant, Anaïs Vagili, c'est qu'on le comprend bien à travers ces deux réponses qu'on vient d'entendre, c'est qu'il est finalement question du consentement des entreprises à se soumettre à un certain nombre de normes, de réglementations en fonction de ce qu'elles considèrent être efficaces ou non. Alors, vous posez justement la question dans votre ouvrage, comment pourrait-on construire le consensus autour de la question de la réindustrialisation? Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce discours d'Ursula von der Leyen, le rapport de force a quelque part basculé? On ne cherche plus tellement à créer une forme de consensus, mais on cherche à faire primer l'intérêt de certains, et en l'occurrence celui des entreprises.
Alors, je ne sais pas si on remet en cause un consensus. En tout cas, il y a une situation qui est très claire, c'est la situation de l'industrie européenne qui est très inquiétante. On voit une multiplication d'annonces sur des restructurations ou des fermetures de sites industriels, notamment dans les industries lourdes, donc chimie, production d'acier, etc. Et à la fois, si on détricote ces industries lourdes qui sont l'amont, donc qui vendent leurs produits aux autres industries, et si on voit aussi des grands donneurs d'ordre comme le secteur de l'automobile ou de la construction qui sont en difficulté, eh bien c'est toutes les chaînes de valeur européennes qui sont menacées de fermeture ou de délocalisation sur un temps plus ou moins court. Et donc, le cri d'alarme des industriels, ça a d'abord été une inquiétude face à la situation économique qui est liée en partie à une demande qui est en train de stagner, une demande européenne qui stagne, une agressivité très forte des concurrents asiatiques avec une guerre des prix et un prix de l'énergie qui est structurellement plus haut en Europe que ce qu'on a ailleurs dans le monde. Pour donner un chiffre qui va éclairer nos auditeurs, le prix du gaz aux États-Unis est en dessous de 10 euros du mégawatt-heure grâce au gaz naturel liquéfié, c'est-à-dire le gaz de schiste. En Europe, on est aux alentours de 40 euros du mégawatt-heure, avec en plus le prix du CO2 à ajouter, donc un gaz qui est aux alentours de 60 à 65 euros du mégawatt-heure pour un industriel. Donc ça a un impact sur la compétitivité en particulier sur les industries lourdes qui sont fortement consommatrices d'énergie. Et donc la réaction des industriels, c'est de dire, si vous voulez concilier ambition de réindustrialisation et de lutte contre le réchauffement climatique, eh ben il faut déjà s'assurer de préserver une base industrielle, parce qu'avoir une base industrielle solide, c'est le meilleur moyen de contribuer à décarboner l'économie mondiale, puisqu'on a des facteurs plutôt favorables en termes de normes sociales et environnementales en Europe. Et donc la réponse qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup d'annonces. Mais finalement, on peine à voir quelles sont les actions court terme, on peine à voir quelle est la réponse de l'Europe face à une guerre économique mondiale, finalement, puisque ce qu'on voit, c'est qu'on s'impose beaucoup de choses, mais on impose beaucoup moins à ceux qui viennent sur le territoire européen, donc on a un impact sur notre compétitivité par des normes, qui à mon avis sont nécessaires dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, mais on n'impose pas la réciprocité aux autres dans beaucoup de cas. Et donc finalement, eh bien, on se tire une balle dans le pied, on investit pour nous décarboner, mais on ne se protège pas des autres qui n'ont pas forcément les mêmes investissements.
Donc on le comprend, il y a une conjoncture en fait, tout simplement, qui est très liée à cette question cruciale de l'énergie pour les entreprises et plus spécifiquement pour l'industrie, a fortiori quand elle est lourde. Ursula von der Leyen l'a dit, nous avons un plan, la volonté politique, ce qui compte c'est la rapidité et l'unité, le monde ne nous attend pas. Alors transformons ce consensus en action. Finalement, Anaïs Vaugilis, je repose là finalement aussi ma question, mais ce consensus, c'est peut-être celui de cet état assez inquiétant de ce tissu industriel. C'est la situation dans laquelle on se trouve. Elle fait consensus. Reste à savoir comment on met en place des actions. Mais en tout cas, est-ce que cette idée-là qu'il faut venir secourir l'industrie, elle fait consensus aujourd'hui?
A priori, oui, elle fait consensus. En tout cas, on se rend compte qu'on est en train de perdre définitivement une base industrielle et qu'en plus on est en retard en termes d'innovation. En tout cas, les innovations qui sont clés dans la transition écologique. Donc, on a un consensus là-dessus. Après, il y a peut-être une chose sur laquelle on n'a pas de consensus, c'est que tout le monde se met à parler de simplification. On ne sait pas vraiment ce qu'on met derrière la simplification. Il y a tout ce qui va toucher à la responsabilité des entreprises à travers la CSRD. Et d'autres normes qui sont mises en place qui ont fait couler beaucoup d'encre parce qu'elles viennent encore apporter des contraintes aux entreprises sans atténuer d'autres contraintes. En fait, le problème, le nœud qu'on a, et je pense qu'on n'arrive pas encore à percevoir et à décrypter, c'est que tout le monde exige des choses en termes de production, d'indicateurs, de reporting, de formulaires administratifs dans les chaînes de valeur, hein, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés. Les clients exigent de leurs fournisseurs de fournir un certain nombre de choses. Et finalement, on se dit on va simplifier, mais il faudrait déjà qu'on s'entende sur ce qu'on met derrière ça et qu'on se questionne sur les normes qu'on veut garder. Et une bonne norme, je pense que c'est une norme qu'on impose aussi aux autres et pas seulement à nous.
Alors justement, pour bien comprendre de quelles normes il est question et de ce qu'on cherche à alléger ou pas, et on a bien compris que c'est l'empilement, peut-être, vous l'avez dit, à chaque étape aussi de la chaîne de production et puis par des acteurs parfois très différents, pour comprendre à quoi s'attaquer et en quoi l'Union européenne se sent aussi quelque part responsable de cet empilement-là, Benoît Blotin, le rapport de Mario Draghi en septembre dernier avait acté ce fameux décrochage européen, notamment vis-à-vis des États-Unis. Il a surtout acté la puissance de cette critique vis-à-vis de la lenteur, de la lourdeur de la bureaucratie européenne. Il faut peut-être commencer par se demander pourquoi, en premier lieu, l'Union européenne s'est dotée de telles normes, normes qui s'incarnent notamment, on l'a commencé à le dire, dans le pacte vert, le fameux Green Deal. Quelles étaient les ambitions initiales de ce pacte vert qui, on le rappelle, représente à lui tout seul, je crois, près de 80 textes adoptés entre 2019 et 2024. Surtout de quelle volonté il était issu, Benoît Blotin, qui semble aujourd'hui ne plus tellement faire consensus, pour reprendre ce terme?
Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut bien comprendre d'où on est parti, et c'est-à-dire on est parti de très très loin. Lorsqu'on parle d'Union européenne aujourd'hui, on est il faut remonter un peu au début de la construction européenne, au début des années 50. On a les premiers traités, on a 6 États dont la France, on se met d'accord sur un certain nombre de politiques de concurrence, de transport. Mais on se met pas d'accord sur une politique environnementale parce que les États eux-mêmes ne développent pas vraiment de politique environnementale, tout au plus il y a quelques actions environnementales. Et puis au fil de la dégradation de l'environnement, dans les années 70, sommet de Stockholm, et puis quelques incidents, drames, Seveso en 76, Tchernobyl en 86, il va y avoir une prise de conscience, et les États, qui sont quand même les maîtres des traités, faut le rappeler, c'est eux qui rédigent les textes, vont au fur et à mesure intégrer l'environnement dans les traités modificatifs, particulièrement le traité de Maastricht au début des années 90. Je passe évidemment très vite là-dessus. Mais en gros, l'idée qui ressort de ces textes, c'est que l'environnement doit être pris en compte dans l'ensemble des autres politiques. C'est-à-dire que si on développe une politique de transport, il faut prendre en compte l'environnement. Si on développe une politique agricole, il faut prendre en compte l'environnement, etc. C'est ce qu'on appelle la clause d'intégration. Donc l'environnement doit être intégré dans l'ensemble des politiques, ce qui fait, dès le début des années 90, une sorte de politique un peu privilégiée par rapport aux autres. Et puis, les années vont passer. 2009, on a le traité de Lisbonne, qui est actuellement en vigueur. L'environnement va faire une entrée remarquée, notamment dans ce qu'on appelle la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. On remarquera que l'environnement est très proche, évidemment, des droits de l'homme. Et ce qu'il ressort de tout ça, c'est qu'il y a une thématique qui revient en boucle, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, et qui va apparaître, qui va devenir une... Alors, j'allais dire une contrainte. Évidemment, c'est pas le bon terme, mais en tous les cas, qui va devenir un objectif à atteindre pour l'ensemble des États. 2009, 2000, et puis on va subir aussi des crises pendant ce temps-là, crise énergétique, 2006, 2009, 2014, notamment entre la Russie et l'Ukraine, qui va avoir un impact sur notre marché. Et progressivement, les États vont se mettre d'accord pour lutter contre le réchauffement climatique. On dirait que le point de départ du Green Deal, en fait, remonte à 2015 principalement, c'est l'accord de Paris, où on a un traité international où tous les États se mettent, quasiment tous les États du monde, se mettent d'accord pour agir face à ce réchauffement climatique. Donc finalement, ce pacte vert qui arrive en 2019, c'est simplement la traduction, la transposition d'une promesse qui a été faite en 2015, transposer l'accord de Paris. Et pourquoi on en arrive à ce pacte vert? Eh bien parce qu'on a eu des élections européennes, que ces élections européennes vont créer une sorte de vague écologiste au sein de ce Parlement européen qui est l'un des deux co-législateurs. Et le Parlement européen va déclarer l'urgence climatique. Donc, avec ce pacte vert, il y a une parfaite cohérence avec les promesses qui ont été faites. C'est une demande du Parlement européen. Le Parlement européen demande à la Commission européenne de réagir. Et concrètement, comment ça se traduit en termes de production normative? Le Parlement européen d'aligner toutes ses propositions législatives sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, un objectif qui traverse le pacte vert, à savoir atteindre la neutralité carbone en 2050. Le pacte vert qui est pris par la Commission européenne, c'est une promesse d'Ursula von der Leyen. Elle est élue sur cette priorité politique. Donc il y a là encore pas vraiment de surprise, mais si on devait résumer ce qu'est le pacte vert en quelques mots, c'est un texte qui fait à peine 30 pages, le pacte vert, c'est une communication de la Commission européenne qui vise la neutralité carbone en 2050 et donc qui vise à modifier, en tous les cas, à repenser les principales politiques qui influencent les émissions de CO2, ou en tous les cas qui ont un impact sur les émissions de CO2, c'est la politique énergétique, c'est la politique agricole, c'est la politique des transports. Et puis, derrière tout ça, il y a évidemment beaucoup de normes pour protéger la biodiversité, à commencer par les forêts et les océans.
Benoît Blotin, vous l'avez dit, ce pacte vert, il est mis en place parce que c'est certes une réponse à des promesses, mais c'est en fait issu aussi d'une volonté démocratique. C'est le résultat de ces fameuses élections que vous évoquez. Dans quelle mesure, aujourd'hui, on peut le voir comme une forme de parenthèse plus que d'un changement réel? Parce que dans ce que vous nous dites, on a l'impression qu'il y a un changement du tout au tout, que c'est quasiment copernicien, qu'on a dû tout bouleverser. Est-ce qu'aujourd'hui, ce bouleversement-là, il est remis en cause dans son bien fondé, c'est-à-dire l'importance des questions environnementales, ou est-ce que c'est la façon dont ça a été mis en place qui est sérieusement critiquée?
C'est exactement ça, c'est-à-dire que je pense que les objectifs du Green Deal ne sont pas remis en cause dans aucun secteur. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde pour dire qu'il ne faut pas polluer, qu'il faut habiter une planète quand même vivable, qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est plutôt sur les moyens. On va essayer de faire quelques ajustements. Ça a été rappelé tout à l'heure, il y a eu quand même pas mal de crises, dont une crise énergétique. Le pacte vert, il est lancé le 11 décembre 2019. Quelques semaines après, on a les premiers cas de Covid dans le monde, qui va créer une crise des semi-conducteurs, qui va créer une crise énergétique, qui va créer une crise humanitaire avec la guerre en Ukraine, qui va créer une crise agricole, une crise alimentaire, et sur fond d'une crise quand même qu'on oublie un petit peu, qui est une crise politique, et même une crise de la représentativité aussi, avec une perte de repères de certains électeurs qui ont du mal à comprendre un petit peu les messages qui sont envoyés par nos politiques.
Bon, et puis par ailleurs, quand même, 80 directives en mise en place, je crois qu'il y en a quand même bien plus qui y a quand même bien plus d'initiatives qui sont symbolisées par ce pacte vert. Ça fait quand même beaucoup de modifications à faire.
Alors, au total, entre 2019 et 2024, il y a un peu plus de 160 initiatives, qui ne sont pas toutes législatives. Quand on parle d'une initiative, ça ne débouche pas forcément sur une législation derrière. Sur les 160, il y a à peu près 130 initiatives législatives qui ont vocation donc à déboucher sur un règlement ou sur une directive. La directive laisse plus de marge de manœuvre, on va dire, pour résumer les choses, plus de marge de manœuvre aux États membres. 80 législations, on va dire, il y en a à peu près une trentaine qui sont en cours de discussion. Et en réalité, lorsqu'on fait les comptes, il y en a que 9 qui sont actuellement bloqués ou suspendus. Donc en réalité, sur les 160 à peu près initiatives, seulement 9 textes sont actuellement bloqués.
Vincent Charlet, alors on vient de l'entendre, tous les secteurs ne réclament pas l'abolition totale de ce pacte vert. J'aimerais qu'on prenne l'exemple d'un secteur en particulier qui nous aidera bien à illustrer aussi les tensions qui se nouent vis-à-vis de ce pacte vert et puis de l'ensemble de ces normes. C'est évidemment le secteur de l'automobile qui a été reçu de fait le lendemain de la présentation de cette fameuse boussole par Ursula von der Leyen. Le jeudi, voilà, tous les représentants des constructeurs qui étaient reçus par la présidente de la Commission européenne. Et de fait, c'est bien via le pacte vert qu'ont été fixés les objectifs de neutralité carbone en 2050 et donc l'interdiction de la vente des véhicules thermiques neufs en 2035, une mesure qui a beaucoup inquiété le secteur, qui a généré un certain nombre de changements. Et là, c'est intéressant, je trouve, Vincent Charlet, il y a le message des constructeurs, c'est vraiment, on voudrait alléger le poids financier, notamment des réglementations, viendra en fait, dans un second temps, la question de la compétitivité. Il y a un peu cette idée de d'abord on allège, ensuite on verra pour la stratégie. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir cette lutte contre les normes? En fait, on se rend compte, vu la conjoncture, vu tout ce qui se passe en ce moment, le plus simple, c'est d'abord d'alléger. On sait que ce sera efficace et le reste viendra ensuite.
Le secteur automobile est dans une situation assez particulière. Tout ce qui s'applique à ce secteur ne vaut pas pour l'ensemble de l'industrie. Mais c'est, comme je dis parfois, l'épine dorsale de l'industrie européenne, pour des raisons historiques. Quand vous croisez des statistiques et vous essayez de comprendre quelle est la santé de l'industrie dans tel ou tel État membre ou au niveau de l'Union européenne dans son ensemble, vous commencez toujours par tomber sur le secteur automobile qui représente généralement un tiers de l'explication statistique du phénomène que vous essayez de décrire. Donc c'est absolument fondamental. Et effectivement, ce secteur a été placé dans une situation, dans une impasse, puisque le volontarisme environnemental et réglementaire qui vient d'être rappelé, pour des raisons que tout le monde connaît, s'est appliqué d'une manière à la fois très intense et un peu unilatérale, il faut le dire, sur un secteur automobile, à qui on a demandé à la fois de préparer la conversion à l'électrique qui tardait un peu, enfin tout le monde en parlait depuis longtemps mais il n'y avait rien qui bougeait, et à qui on a dit bon mais par ailleurs, ce qui était prévu auparavant, c'est-à-dire que vous paierez des amendes très lourdes si vous n'arrivez pas à réduire les quantités de CO2 qui sont émises par les véhicules qu'aujourd'hui vous vendez, donc cette règle reste d'actualité. Donc on vous demande en gros de faire une double révolution, d'innover deux fois. Dès les premiers moments où a été formulé cet objectif, ou plutôt cet interdit à venir en 2035, sur les ventes de véhicules émettant du CO2, tout le monde a su faire les calculs et les règles 3 pour dire, on sait dire que rien qu'en France, il faut compter environ 100 000 emplois détruits sur la filière. Donc, d'une certaine façon, les difficultés du secteur aujourd'hui ne sont que la confirmation douloureuse d'un scénario que tout le monde pouvait décrire à ce moment-là. Effectivement, c'est tout à fait particulier. Je voudrais faire deux commentaires rapides encore. On pourrait aussi dire que la situation dans laquelle se retrouve non seulement l'automobile, mais l'Union européenne, c'est aussi la traduction du fait que, alors qu'elle avait initié le mouvement, commencé à honorer ses promesses, ses partenaires économiques principaux ailleurs dans le monde ont finalement renié leurs promesses. Et donc l'Union européenne faisait un peu la course en tête. Elle se retrouve à affronter ce défi toute seule, ce qui devient injuste. Bon, une deuxième remarque, c'est que depuis le début, l'Union européenne a toujours fonctionné préférentiellement par la règle, au sens où elle s'est construite sur un continent en cendres, en s'appuyant, en rassemblant des États et des populations qui s'étaient atrocement déchirés quelques décennies avant. et que la règle était finalement la réponse pour mettre un petit peu sous le boisseau les aspirations souverainistes des différentes populations et des différents États. Et on ne peut pas aujourd'hui critiquer ou même analyser le poids de la règle dans le fonctionnement de l'Union européenne sans, en oubliant qu'on lui doit aussi la paix sur le continent. Et donc, l'Union européenne ne fonctionnera jamais comme des États-Unis souverainistes en diable aujourd'hui, ou comme une Chine au capitalisme d'État complètement truqué. C'est sa manière de rassembler les populations dans un schéma, un projet durable.
Oui, mais c'est là que ça devient intéressant, ce poids de la règle aussi, d'un point de vue historique et puis d'un point de vue presque philosophique aussi, dans la construction de cette Union européenne. C'est là que ça devient intéressant ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on le disait, c'est un dialogue avec les constructeurs qui se noue entre Ursula von der Leyen et puis ces associations de constructeurs, soit directement les grands patrons de ces industries-là. Le prochain dialogue, il aura d'ailleurs lieu le 3 mars. Anaïs Voigilis, est-ce que finalement, c'est une nouvelle méthode qu'on peut voir apparaître là, cette idée de construire la norme, construire la règle, comme on le disait, mais en fonction des secteurs, de façon très, très, très sectorialisée finalement?
Alors, je pense qu'il y a, en effet, on peut déjà constater une sorte d'évolution peut-être dans la doctrine de l'Union européenne et une évolution en termes de rapport à la politique industrielle déjà qui évolue depuis le Covid, quelques semaines avant le Covid. L'Union européenne avait présenté sa feuille de route en matière industrielle et puis le Covid, la guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques qui montent un peu partout sur le globe, la loi de réduction de l'inflation de Joe Biden, le retour de Donald Trump au pouvoir font que la Commission a vraiment évolué dans le rapport à la politique industrielle, puisque pendant et d'ailleurs la politique industrielle reste de la compétence des États membres, mais il n'était pas question d'avoir une politique industrielle à l'échelle européenne. Et donc ça, c'est une évolution. Après, il y a aussi une évolution dans peut-être les relations avec les filières et les grands donneurs d'ordre. Néanmoins, il y a un équilibre à trouver. Et on a un peu le sentiment qu'il y a un tout ou rien. Et aussi peut-être un écart entre les discours tenus et l'évolution du discours de Ursula von der Leyen et la traduction ensuite dans ce que l'administration européenne met en œuvre. Il y a le sentiment que les choses ne vont peut-être pas assez vite et que finalement on veut apporter une réponse, mais qu'elle reste peut-être insatisfaisante en termes d'action. Mais quand je dis le tout ou rien, c'est que on veut être ambitieux sur le plan environnemental, donc il est aussi normal de prendre des virages qui vont remettre en cause certains modèles économiques. Et la question qui va se poser, c'est comment on accompagne ces mutations et comment on arrive à concilier ces mutations tout en gardant notre souveraineté. Et l'Europe reste un continent qui est très dépendant. Et en fait, ce rouage, on a du mal à le voir et on a aussi du mal à voir des réponses européennes au-delà de la simplification. Le tout ce qui est annoncé par Ursula von der Leyen, on a l'impression que c'est une liste à la Prévert, mais finalement il y a des questions qui se posent à l'échelle européenne en termes de politique commerciale, de politique de la concurrence, de comment on arrive à aligner les États membres sur des choses sur lesquelles ils peuvent avoir des divergences en raison de culture économique, d'intérêts économiques divergents. Et donc moi, ce que j'attends de voir, c'est comment ces discours qui marquent peut-être un tournant, vont se traduire dans la réalité et être une réponse assez rapide par rapport aux enjeux de l'industrie.
Benoît Blotin, je reste sur cette question de la méthode et qui interrogeait aussi via Anaïs Voigilis et ce qu'elle nous disait sur cette idée de comment on concilie les différentes sortes d'ambitions. Et je reste sur ce secteur automobile parce qu'il nous raconte quand même pas mal de choses. Une solution est mise sur la table en ce qui concerne ce secteur précis-là, le bunking and borrowing, c'est-à-dire la possibilité d'étaler dans le temps l'obligation de se conformer à l'objectif de 2025. Et si l'objectif n'est pas atteint en une année, il peut être compensé en gros par des efforts plus importants l'année suivante. D'aucuns estiment qu'il s'agit là, et le terme je l'ai trouvé intéressant, qu'il s'agit là d'un pragmatisme juridique et qui permettrait donc de battre en brèche l'idée d'un détricotage du pacte vert. C'est peut-être là le point qu'il faut faire. On ne parle pas de détricoter en tant que tel le pacte vert, on parle de s'ajuster, on va dire, en fonction des besoins de chacun. Est-ce que ça, c'est une façon de construire aussi la politique européenne?
Alors vous dites, on ne parle pas du détricotage du pacte vert, on en parle quand même un petit peu.
Je reprends les termes d'Ursula von der Leyen, qui a dit qu'il est hors de question de revenir sur nos objectifs qui sont gravés dans le marbre.
Voilà. Tout à fait, c'est ce qu'elle confirme, c'est ce qu'elle avait confirmé fin décembre, c'est ce qu'elle reconfirme dans son discours d'avant-hier sur cette boussole de compétitivité. Sur le secteur industriel et particulièrement sur le secteur automobile, ce qu'on a pu reprocher un petit peu à la méthode utilisée par la Commission européenne, c'est d'avoir mis un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire d'avoir peut-être pas fait d'études d'impact assez poussées pour se rendre compte, en tous les cas pour voir comment allait réagir le secteur face à ces annonces. Ça a été très vite, peut-être qu'on peut estimer que la Commission a fait un peu un... une sorte de péché d'orgueil en voulant aller un peu trop vite, notamment sur le secteur automobile qui est particulièrement impacté effectivement par ces normes environnementales. Mais effectivement, il a été annoncé récemment que, notamment sur le risque de sanctions qui pourraient être envisagées contre certains constructeurs automobiles qui ne feraient pas assez d'efforts dans cette lutte contre les émissions de CO2, on a estimé qu'il fallait repousser, en tous les cas, qu'il fallait redialoguer avec le secteur industriel. C'est ce qui a été annoncé. Le mot pragmatisme a été annoncé de tous les côtés. Bon, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on peut pas d'un côté vouloir subventionner un secteur et de l'autre vouloir le pénaliser. Il faut faire œuvre de pragmatisme, mais il a quand même été rappelé que les objectifs ne changent absolument pas.
Par contre, le terme, la notion en tout cas de pause réglementaire, elle aussi a été mise sur la table. Et là, Vincent Charlet, une question se pose. Dans quelle mesure peut-on voir cette pause ou cette notion d'allègement réglementaire comme une solution faute de mieux? Parce qu'on aurait pu se dire, et c'était d'ailleurs ce vers quoi tendait le chancelier allemand Olaf Scholz, qu'on aurait pu créer un système de bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique à l'échelle de l'Union, un bonus européen. Et ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'il faut se dire tout simplement que l'Union européenne, elle n'a pas tellement le choix de faire autre chose que d'alléger sa réglementation parce qu'elle n'a pas tout simplement les fonds nécessaires pour subventionner et pour injecter de l'argent là où il en faut?
Alors, vous avez parfaitement raison de pointer le fait que cette approche qu'on entend dans le discours aujourd'hui de la Commission qui est nous allons essayer de desserrer un peu la contrainte réglementaire, c'est une autre façon de dire nous n'avons pas d'argent à investir dans l'innovation ou... Bon, compte tenu des règles que nous sommes tous fixés collectivement relativement à l'endettement. Ça, c'est un premier point. Une deuxième chose, c'est que la question de savoir si la règle est plutôt favorable ou défavorable à la compétitivité, comme toutes les grandes questions philosophiques, la réponse est toujours « ça dépend ». Et donc, il se trouve que dans le contexte qu'on est en train de rappeler, il y a eu des points durs, des aspects particuliers qui ont été mal vécus par une partie des industriels. Donc on vient de parler du secteur automobile, c'est quand même un exemple important. Mais la CSRD qui a été aussi évoquée dans l'émission est un autre point important. Cette fois-ci, l'impact il est moins sectoriel. Donc la CSRD, pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est cette obligation de reporting social et environnemental qui pèse désormais, qui devrait peser sur les entreprises pour s'assurer que ce qu'elles font et produisent et vendent n'est pas défavorable ni à l'environnement ni aux populations et qu'inversement, les mutations environnementales ou sociales ne sont pas non plus défavorables. Favorable à leur activité.
Peut-être que Vincent Charlet, c'est peut-être sur la notion de reporting qu'il faut insister.
Et donc ça demande un effort de reporting, enfin remplir des déclarations qui sont extrêmement épaisses
et qui pèsent
sur les grandes entreprises qui arrivent peu ou prou à s'en sortir, mais sur tous leurs sous-traitants qui doivent à la fois rendre compte de leur activité auprès des autorités et auprès de leurs donneurs d'ordre qui évidemment remontent les chaînes de valeur. Et là, ces industriels de la sous-traitance, de taille en général petite ou moyenne, effectivement, récemment, se sont émus en disant « vous ne pouvez pas nous demander une telle activité ». J'ajoute que des chercheurs universitaires pointent dans le même temps que tout le temps que les DRH et directions de l'environnement, etc., passent à remplir les formulaires de CSRD, ils ne passent plus à faire d'autres choses tout aussi utiles sur la qualité de vie au travail, la santé au travail ou les nuisances environnementales de telle ou telle activité. Donc là, sur le CSRD, c'était un autre point dur. Il n'est pas anormal que dans un mouvement de dialogue, alors peut-être un peu bourru, la Commission dise « Ok, peut-être qu'on a été un peu loin sans détricoter l'ensemble du pacte vert, il faut qu'on remette l'ouvrage sur le métier parce que y a quelque chose qui ne va pas dans les dispositions que nous avons prises aujourd'hui.
Et puis ça permet d'insister sur un point peut-être aussi, Vincent Charlet, c'est que cette CRSD, pour Corporate Sustainability Reporting Directive, il ne faut pas croire qu'il s'agit uniquement de très grands groupes, parce qu'on a beaucoup parlé de l'exemple de l'automobile, mais c'est pour des entreprises à partir de 250 salariés. Et ça, je trouve que c'est un point important aussi à saisir, c'est qu'il s'agit là de structures parfois de taille moyenne, voire petite, et que ça a un impact très concret pour elles.
Et c'est bien de là que vient la contestation la plus vive et la plus crédible, si j'ose dire, sur le point particulier de la CSRD, oui.
Alors, on l'a dit, il n'est pas question de détricoter le pacte vert dans son intégralité. Certaines mesures sont particulièrement visées par une loi dite Omnibus, qui sera présentée le 26 février prochain et qui vise à réduire de 25% les obligations des entreprises en matière de rapport et de 35% celles des petites et moyennes entreprises, on en parlait. Un autre texte, et particulièrement dans le collimateur, on va dire, et d'ailleurs surtout des autorités françaises, qui a demandé depuis un certain temps la suspension de cette directive, une directive votée le 28 février dernier. Lara Wolters, la rapporteure du texte au Parlement européen, s'en réjouissait alors.
So, European companies have the right to exploit children.
Donc les entreprises européennes ont le droit d'exploiter des enfants. Elles ont le droit de détruire les forêts. Et surtout, les entreprises européennes ont le droit de ne pas se poser de questions, ni de rendre aucun compte. Alors ce n'est pas ce que je pense moi, mais c'est ce pourquoi Emmanuel Macron, Giorgia Meloni et Christian Lindner se sont battus ces dernières semaines. Si j'ai l'air furieuse, mais c'est parce que je le suis. Nous avions un accord. Le cynisme de ces derniers jours, l'indécence et l'injustice flagrante des lobbies des entreprises qui disent quoi faire à leurs dirigeants politiques plutôt que l'inverse. Et comme toujours, ce sont les victimes de ces entreprises qui sont ignorées. Le temps est compté.
Benoît Blotin, le ministre délégué français en charge de l'Europe, Benjamin Haddad, avait demandé la suspension de cette directive sur le devoir de vigilance dès le mois d'avril 2024. Là encore, il faut revenir aux origines. Il y a une forme de tournant aussi à ce niveau-là. Si cette directive a été adoptée, c'est aussi parce qu'elle venait répondre à une demande.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que, il y a deux textes. Hein. Il y a la directive sur le reporting extra-financier, ce qu'on appelle la CSRD, et la directive sur le devoir de vigilance, qu'on appelle la CS3D. Alors, ce sont des acronymes anglais, ce sont des directives qui s'entrecroisent, et c'est peut-être aussi ça l'un des problèmes majeurs, c'est qu'elles se répondent un peu l'une à l'autre et exercent une certaine contrainte sur certaines entreprises. J'ajoute juste sur ce point d'ailleurs que, effectivement, ça touche des petites entreprises qui sont pas si petites que ça en réalité, parce qu'il n'y a pas que le critère non plus du nombre de salariés, aussi une question de chiffre d'affaires. C'est une contrainte supplémentaire. Mais lorsque vous avez des multinationales qui commencent à critiquer la technicité de ces textes, alors que ces mêmes multinationales n'ont aucune difficulté à faire,
il y a
un très gros décalage, qui n'ont aucune difficulté à faire des montages extrêmement sophistiqués pour échapper à certaines réglementations ou certains montages financiers extrêmement complexes pour de l'optimisation fiscale. Moi, je suis un peu moins ému que quand ce sont ces multinationales qui se plaignent de la technicité de ces textes. Sur le devoir de vigilance, il faut expliquer d'où ça vient. Le devoir de vigilance, ça vient d'une prise de conscience qui a eu lieu il y a un peu plus d'une dizaine d'années avec ce qui s'est passé au Bangladesh et avec le tram du Rana Plaza où dans un immeuble, il y a eu un effondrement, il faut quand même le rappeler, avec plus de 1000 morts. Tout le monde s'en est ému à ce moment-là. Dans l'industrie du textile, qui a mis la lumière sur des conditions de travail déplorables et des produits qu'on achetait nous-mêmes. C'est pour ça qu'on demande à certaines multinationales de faire attention à leurs partenariats et de faire attention à leurs sous-traitants.
C'est ça, c'est la notion de sous-traitance qui est très importante là-dedans. C'est de comprendre comment ce qu'on produit a un impact de façon beaucoup plus large que la simple entreprise.
C'est important, mais c'est difficile effectivement à mettre en œuvre parce que, comme son nom l'indique, ça oblige les entreprises à être extrêmement vigilantes, à mettre en place un plan de vigilance, à mettre en place une cartographie des risques pour identifier les zones à risque et surtout... en cas de alors ça touche l'environnement, mais ça touche aussi, vous l'avez compris, les droits de l'homme. Il peut y avoir des actions en justice. Alors pourquoi on a entendu effectivement le ministre délégué se plaindre de cette directive? Alors déjà, il faut quand même rappeler que l'un des premiers États au monde qui a mis en place un devoir de vigilance, c'est la France.
C'est en 2017. Qui aurait d'ailleurs inspiré ce qui s'est passé ensuite d'un point de vue législatif au sein de l'Union européenne.
Alors non seulement qui a inspiré l'Union européenne, mais qui a pu aussi inspirer d'autres États membres. Alors d'un côté, on se plaint qu'on a parfois trop de régimes juridiques différents au sein de l'Union européenne. De l'autre, lorsqu'on met en place une directive qui cherche à harmoniser ces régimes juridiques, on se plaint aussi. Ce qui est sûr, c'est que ces entreprises, ce qui n'était pas totalement acceptable, c'est qu'elles soient soumises à un devoir de vigilance français, à un devoir de vigilance allemand, à un devoir de vigilance italien, etc. Sachant que les régimes de responsabilité ne sont pas exactement les mêmes. Le régime de responsabilité français, c'est pas le régime de responsabilité allemand. Donc pour soulager les entreprises, on a fait remonter ce devoir de vigilance au niveau européen. Et je signale d'ailleurs que lorsque la doctrine a étudié ce texte, elle a estimé que le devoir de vigilance européen n'était pas assez ambitieux. Et aujourd'hui, on nous dit, puisqu'il y a eu un accord, et c'est vrai, la France a voté et a accepté ce devoir de vigilance européen, on nous dit qu'il faudrait remettre en cause ce devoir de vigilance.
Donc on se retrouve face à une forme de paradoxe qui a été mis en place pour unifier, pour simplifier aussi.
Une schizophrénie.
Aussi, voilà, une forme de schizophrénie, vous l'avez dit. Anaïs Voigelis, sur ce devoir de vigilance, c'est vrai que là aussi, il y a encore un autre paradoxe. On se retrouve à dire que, bah oui, en fait, faire attention à l'environnement, faire attention aux droits de l'homme, ce n'est pas compétitif. Quelque part, c'est un peu le message qui, de fait, est mis sur la table.
Oui, mais moi je trouve qu'il y a quand même une sorte d'hypocrisie là-dedans. Mm-hmm. C'est-à-dire que qu'on soit vigilant sur les chaînes de sous-traitance des grandes sociétés européennes et les etc. Ça a du sens, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que des entreprises non européennes qui notoirement flinguent l'environnement, font travailler des enfants, oppriment des minorités, ont le droit d'importer en toute impunité, enfin d'exporter en toute impunité des produits vers l'Europe. C'est ça le nœud du problème, c'est que on veut être très ambitieux, contribuer à faire changer les choses dans le monde, et en même temps, on accepte que des produits qui ne sont pas alignés sur les standards rentrent sur le sol européen. Et je crois que c'est aussi ça qui met en colère les chefs d'entreprise. Et ce que la Commission doit aller chercher, c'est-à-dire au-delà de l'alignement avec les entreprises, c'est comment elle aligne la société. Et il y a une question qui se pose peut-être plus brutalement en France qu'ailleurs en Europe, on regarde notre situation financière, c'est comment on concilie soutenir le pouvoir d'achat, préserver le pouvoir d'achat, soutenir la compétitivité des entreprises et leur permettre d'engager des financements massifs dans la transition écologique sans augmenter la dette. Et dans l'équation, aujourd'hui, personne n'a envie de payer le prix de la transition. Et quand on voit toutes les annonces faites par la Commission européenne, on se demande comment on va financer? Où est-ce qu'on va mobiliser des capitaux? Qui va les mobiliser? Et on ne veut pas se poser ce débat qui est infiniment politique.
Et on va en venir de toute façon à essayer d'expliquer, effectivement, une fois qu'on a allégé, une fois qu'on a simplifié, c'est pour construire quoi? Pour construire mieux ou pour construire plus? On va le voir. Vincent Charlet, je voudrais quand même rebondir sur cette idée d'Anaïs Voigelis, c'est que finalement, on a un peu cette impression qu'on construit une stratégie pour la compétitivité de façon assez, pas unilatérale, mais presque trop sectorialisée, qu'il n'y a pas vraiment de politique plus globale dont l'industrie ferait partie, mais qui serait une politique économique européenne qui prendrait en compte notamment des notions soit de barrières tarifaires en ce qui concerne des produits importés de fait dans des conditions et fabriqués dans des conditions qui ne correspondent pas à nos normes à nous. Qu'est-ce que ça dit finalement d'une forme d'impuissance aussi une fois qu'on règle nos problèmes à nous normatifs? Est-ce qu'on a les armes pour penser l'industrie aussi en termes de place dans le commerce mondial?
Qu'est-ce que ça dit? Je pense que cette séquence, elle révèle à la fois que l'Europe et les décideurs européens se sentent acculés à une réaction, fût-elle symbolique ou des déclarations politiques, parce que, encore une fois, depuis plusieurs mois, les mauvaises nouvelles s'accumulent. On l'a pas évoqué là, mais il y a encore un an, aussi bien en France qu'en Europe, la réindustrialisation verte ou la décarbonation compétitive, appelons-la comme vous voulez, était envisagée relativement avec confiance. On nous parlait de gigafactory, de enfin on allait avoir nos usines de batteries, plus les semi-conducteurs pour la même automobile, etc. Or, là-dessus aussi, on commence à avoir des signes tout à fait sérieux de ce que peut-être il va se passer pour cette aventure industrielle verte-là, ce qui s'est passé il y a une décennie pour le photovoltaïque. Bon, donc, l'Europe y croyait et elle se rend compte que cette amorce de changement, de réindustrialisation verte auquel elle croyait, paraît finalement très mal engagée ou s'annonce très mal. Bon, donc les marges de manœuvre politiques et institutionnelles de la Commission, elles sont ce qu'elles sont. Effectivement, il lui est plus facile de prendre des décisions de nature réglementaire que d'imposer un cadre commun ou même un récit commun qui fédérerait l'ensemble des 27. Aujourd'hui, elle n'en a pas le pouvoir politique. On a déjà dit qu'il y avait un problème aussi de financement. Donc, c'est pas la Commission qui fera l'équivalent de l'IRA américaine ou des annonces tonitruantes des investissements dans l'intelligence artificielle. Donc voilà, cette séquence-là, que l'on interroge tous collectivement, c'était sans doute le meilleur coup à jouer possible de la Commission dans le rôle qui lui est donné aujourd'hui et dans les limites de ses prérogatives.
Anaïs Voigilis, il y a une dernière réglementation, un dernier pilier, on va dire, qui est aussi dans le viseur de cette simplification, dans cet objectif administratif qui est sur la table aujourd'hui. C'est la réglementation REACH qui est entrée en vigueur en 2007. Alors là, ça concerne toutes les entreprises de l'espace économique européen qui fabriquent, importent ou utilisent des substances chimiques dans leurs activités et qui doivent de fait remplir tout un tas de déclarations, enregistrer ces substances sur une base de données. Il y a énormément de substances chimiques qui sont concernées. Ça aurait coûté 5 milliards aux entreprises concernées. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, je trouve, Anaïs Voigilis, c'est qu'il y a une autre forme de contestation qui arrive, et c'est celle des ONG. Parce qu'au même moment, on a des ONG qui nous disent justement, REACH ne va pas assez loin, permet aussi l'utilisation et la production, notamment de PFAS. Et là, on voit qu'il y a deux intérêts très contradictoires, finalement, et que clairement, un choix a été fait aussi.
Oui, oui, oui. Alors, et la question, en fait, qui se pose, c'est d'un côté, on peut se réjouir d'avoir des réglementations importantes et qui préservent la santé des consommateurs et des citoyens européens. De l'autre, le problème est que plus on met de réglementations, plus les entreprises doivent se mettre en conformité, plus cela accentue l'écart de structure de coût, donc de compétitivité entre les entreprises européennes et non européennes. Et d'ailleurs, si on a eu une délocalisation massive de la production de principes actifs et de manière générale de la chimie en dehors de l'Europe, c'est notamment parce que ces réglementations pesant de plus en plus lourd, eh bien, les entreprises européennes étaient plus compétitives par rapport à des entreprises chinoises ou indiennes qui, donc, du coup, produisent massivement des produits chimiques aujourd'hui qui sont réimportés sur le sol européen, en particulier dans le domaine de la santé.
Et, oui, mais Anaïs Voigilis, ça revient à dire de fait que la compétitivité est devenue un principe supérieur à tout autre, de fait.
Alors, en fait, la question qui se pose, et j'en reviens à ma question de réciprocité, c'est quel choix de société nous faisons ? Est-ce que nous acceptons de payer quelque chose plus cher parce qu'il respecte des normes environnementales plus hautes, mais dans lesquelles on croit et dans lesquelles on pense que l'humanité a intérêt à aller ? Or, aujourd'hui, on réglemente, mais on fait rentrer sur le territoire des choses qui ne respectent pas les réglementations qu'on se met. Alors, les PFAS, c'est un problème qu'on est en train de découvrir, et la mutation pour l'industrie et les investissements pour se sortir de ça vont être longs et conséquents. Mais si on impose plus de PFAS en Europe, demandons que les produits qui rentrent sur le territoire européen respectent la même réglementation. Sinon, on va détricoter l'emploi industriel européen, on fait une croix sur la souveraineté. Et c'est des questions vraiment douloureuses, hein, de concilier respect de l'environnement et souveraineté. Ce sont des choix. Ce sont des choix de société, ce sont des choix de filières industrielles, ce sont des choix de priorisation dans les investissements. Et d'un côté, l'Europe a voulu mettre en marche la réglementation, mais elle n'a pas vraiment posé la question du projet de société et du discours politique et du récit qui allait avec. Et on a en face de nous deux grandes puissances qui sont la Chine et les États-Unis, qui ont des ambitions environnementales très différentes pour les États-Unis, différentes pour la Chine, mais je pense que la Chine a un discours écologique aujourd'hui qui est en train de monter en puissance, mais elles ont un récit de société et elles avancent et elles se mettent en cohérence en termes derrière ce projet de société. L'Europe n'a pas ça, parce que l'Union européenne aujourd'hui, elle est aussi très décriée à l'intérieur des États membres, on a monté des nationalismes partout, parce que l'Europe n'a pas un récit et l'Union européenne n'est pas une entité politique reconnue de manière aussi forte par les citoyens européens que le sont les États membres.
On le comprend, Anaïs Voigilis, il y a une question de récit, il y a la question de savoir pourquoi l'Europe finalement a du mal à s'incarner en tant que troisième voie entre la Chine et les États-Unis. Ça pose directement la question des outils qui pourraient être mobilisés pour justement concilier, ménager compétitivité et vision de long terme dans le contexte notamment de la transition énergétique. Et justement, à ce sujet, on l'a dit, les déclarations se multiplient. Et c'était notamment le cas, encore une fois, d'Ursula von der Leyen, cette fois-ci, c'était bien mercredi dernier.
Nous voyons aujourd'hui que les industries innovantes qui veulent croître sont confrontées à 27 régimes fragmentés d'exigences dans le marché unique. Et donc, nous leur offrirons l'opportunité d'un 28e régime. Et donc, elles pourraient opter pour ce 28e régime, qui est un socle de règles uniques et simplifiées, valable dans toute l'Union européenne. L'autre élément crucial pour nos startups est l'accès au capital risque. Si on regarde l'ensemble du capital risque dans le monde, seulement 5% sont levés en Europe, 52% aux États-Unis et 40% en Chine. Nous ne manquons pas de capital. L'épargne européenne est de 1,4 trillion contre 800 milliards pour les États-Unis. Ce dont nous manquons, c'est d'un marché efficace pour transformer cette épargne en investissement. Compared to only 800 billion in the United States, what we lack is an efficient capital market that turns these savings into the investment.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette Ovin.
Benoît Blotin, je m'adresse au maître de conférence en droit public que vous êtes. En quoi consiste déjà peut-être ce 28e régime qui pourrait voir le jour en 2026? Quelle est l'utilité de cette démarche?
Lorsqu'on parle d'un 28e régime juridique, alors c'est pas une idée totalement nouvelle, hein, ça a déjà été testé plus ou moins avec un certain succès ou pas d'ailleurs, mais c'est une idée assez ancienne qui avait été relancée après le traité de Lisbonne, qui avait pu être mis en place notamment dans le cadre du brevet, ce qu'on appelle le brevet unitaire européen, qui permet de gagner du temps et qui permet d'éviter un parcours du combattant pour certaines entreprises. Pour bien comprendre les choses, nous avons 27 régimes juridiques au sein de l'Union européenne. On n'arrive pas parfois à se mettre d'accord sur une harmonisation parce que ça peut toucher, et c'est le cas par exemple du monde de l'innovation, parce que ça peut toucher des questions liées au droit du travail, au droit pénal, au droit fiscal, et les États ne sont pas prêts toujours à trouver une législation commune. Donc lorsqu'on parle d'un 28e régime juridique, ça serait un régime juridique optionnel, il faut bien le souligner, qui permettrait aux entreprises de gagner du temps dans leur démarche. Et donc c'est une idée en tous les cas qui est remise au goût du jour, qui avait été proposée dans le rapport, je crois, de Mario Draghi. La proposition, c'est la création d'un statut de société européenne innovante. Voilà, donc pour faciliter l'innovation, pour éviter ce chemin de croix pour certaines entreprises et pour éviter que les startups qui sont inventées en Europe partent aux États-Unis et de plus en plus en Asie et particulièrement en Chine.
Pour des entreprises innovantes, c'est important, Vincent Charlet. Apparemment, ça fait plusieurs mois que de nombreux startups et investisseurs appellent à construire un vrai marché unique. Alors, ce qu'il faut comprendre que ce n'est pas le cas. Et Vincent Charlet, je vous pose la question parce que vous vous êtes intéressé notamment à cette question, notamment du financement des technologies, dans une note que vous avez rédigée en décembre 2023 avec votre collègue Sonia Bellit pour la Fabrique de l'Industrie. En gros, ce que ça nous dit, c'est que on ne sait pas aujourd'hui comment faire en sorte que les investissements, que les entreprises les plus innovantes en Europe parviennent à être suffisamment attirantes pour certains capitaux. Comment on l'explique? Pourquoi c'est l'absence d'un marché unique qui est pointé du doigt?
Alors, l'absence de marché unique est un diagnostic relativement ancien maintenant, mais qui, c'est un parmi beaucoup d'explications sur cette faiblesse relative de l'innovation et tout particulièrement des innovations de rupture en Europe. Avec une traduction concrète, c'est que l'Europe aujourd'hui, ses États membres sont en train de se faire distancer en matière de productivité, c'est-à-dire de création de richesses. Ce qui est pour moi sans doute le cœur du problème des sujets que nous sommes en train d'évoquer ici, parce que tant qu'on aura des problèmes de pouvoir d'achat, de crise du logement ou de souveraineté alimentaire, la productivité et la création de richesses seront un besoin, à mon avis, à satisfaire. On ne peut pas dire que tout le monde est aujourd'hui un toit ou de quoi manger à sa faim en Europe, malheureusement. Donc le problème, enfin ce déficit d'innovation, il vient de ce que la base industrielle en Europe évolue moins vite, on va dire comme ça, se renouvelle moins vite qu'ailleurs dans le monde, et donc les secteurs dits traditionnels y occupent une place un peu plus importante. Donc l'effort d'innovation privée est un peu moindre, donc le nombre de nouvelles technologies, de produits innovants est un peu moindre aussi. Et puis vous ajoutez à ça En effet, le fait que pour toute nouvelle entreprise, start-up ou pas, mais toute nouvelle entreprise qui se lance sur un marché innovant, l'Europe a assez peu d'atouts, il faut être honnête. Donc, il y a 27 réglementations différentes, mais si c'était même pas les réglementations, ce serait les cultures, les langues. Et donc, le fait d'avoir l'euro ne suffit pas à avoir fait un marché unifié. C'est la même chose pour les apports de capitaux. Donc, la philosophie générale du rapport Draghi, c'est de s'attaquer à ces différents leviers pour progresser vers un marché commun qui soit une sorte de réplique un peu de ce qu'on trouve aux États-Unis, qui sont partis il y a déjà un demi-siècle au moins en avance sur ce sujet, de sorte que, pour couronner le tout, aujourd'hui, ceux qui savent faire, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens sont là-bas. Donc l'Europe doit se redoter d'atouts, d'attractivité, de leviers de performance pour... que, à son tour, elle soit une terre propice, féconde pour les innovations de rupture et les activités nouvelles.
Et c'est là, Anaïs Voigilis, où finalement la boucle est bouclée à travers cette question de l'innovation. On a parlé des startups, mais en fait, c'est très lié à la question de l'industrie. Et c'est d'ailleurs ce que disait le philosophe Pierre Charbonnier dans Le Monde. Entre les lignes, Trump nous annonce qu'il veut mettre l'Europe sous perfusion de fossiles américains. C'est justement le moment de relancer un agenda très ambitieux de décarbonation sur l'énergie, sur l'industrie, sur le commerce, car c'est une question de souveraineté. En d'autres termes, on aurait pu se dire que justement l'Europe, en devenant extrêmement compétitive sur des technologies dites vertes, alors prendre en compte l'industrie mais en la décarbonant, aurait pu représenter effectivement une façon nouvelle de produire, d'industrialiser. Et de fait, ça aurait pu représenter cette troisième voie. Oui, il est possible de préserver son industrie tout en prenant en compte ce changement climatique qui est désormais notre contexte actuel.
Oui, bien entendu. Alors... avec un bémol, hein, qui est qu'aujourd'hui l'Europe est très dépendante sur le plan énergétique des autres nations. On est sur la question du gaz. On était très dépendant de la Russie. On est passé de la dépendance de la Russie à la dépendance des États-Unis. Et donc on a un enjeu de transition énergétique à faire très rapidement. Mais on sera une dépendance sur les matières premières critiques, les mines et minerais. Donc il faut avoir une vraie politique à l'échelle européenne pour sécuriser ses approvisionnements. Une politique que la Chine a conduit il y a quelques années avec les nouvelles routes de la soie pour sécuriser ses approvisionnements en la matière, en plus des ressources qu'elle dispose elle-même. Mais il est évident que l'Europe doit et peut présenter une troisième voie. Elle a de nombreux atouts. Je pense que aujourd'hui, elle a pris du retard dans les technologies clés de la transition énergétique. Et donc, son enjeu est, à mon avis, double. Innover, comme ça a été dit, et je ne suis pas une experte du sujet, mais en tout cas, il y a un sujet d'innovation pour identifier quelles seront les technologies de demain et comment est-ce qu'on peut prendre de l'avance sur les autres. Et puis, peut-être, quelque chose qui fait mal à dire, mais quand on a des investisseurs étrangers qui viennent sur le territoire pour développer ces technologies clés de la transition énergétique, eh bien, c'est demander des transferts de technologies, comme la Chine l'a fait il y a quelques décennies, voire quelques années avec l'Union européenne et aussi certains acteurs américains. Si vous vouliez produire en Chine, eh bien, il fallait accepter de faire des transferts de technologies. Ça a permis à la Chine de remonter plus rapidement les chaînes de valeur. Et cette question doit se poser, en particulier quand on met des investissements publics massifs pour permettre ces investissements sur le territoire européen. Je crois qu'il ne faut pas avoir de pitié dans un contexte économique complexe, une demande faible. Il faut que l'Union européenne assume de poser ça dans ses accords internationaux.
Il ne faut pas avoir de pitié, mais Benoît Blotin, si on poussait la logique très très fort, si on se disait, moi voilà, laissons tomber totalement le pacte vert, est-ce que l'industrie européenne repartirait pour autant ?
Laisser tomber le pacte vert, ça ne voudrait pas dire qu'on n'ait plus de politique environnementale, et d'ailleurs c'est pas du tout ce que demandent les États, et c'est pas ce que demandent non plus les industriels à mon avis. Donc non, je vois pas comment. Il faut, mais ça a été dit en réalité derrière le pacte vert, l'un des piliers d'ailleurs du pacte vert, c'est la transition énergétique. On a bien vu ce que ça nous a coûté à la suite de la pandémie et avec la guerre en Ukraine. Derrière ces questions-là, il y a une question d'indépendance, il y a une question de souveraineté. On a souvent parlé d'un Gulliver enchaîné, le marché européen c'est un très gros marché, mais qui est effectivement enchaîné parce qu'il est dépendant de partenaires, des partenaires qui sont pas toujours fiables, et lorsqu'ils sont fiables, eh ben, ça peut nous coûter excessivement cher. Tous les experts le savent très bien. On savait que lorsque la Russie allait chercher à mettre la main sur l'Ukraine, à savoir l'une des plus grosses plaques tournantes en matière d'infrastructure énergétique, on allait en subir les conséquences. Donc derrière le pacte vert, il y a une question extrêmement importante de transition énergétique. Si on n'arrive pas à faire cette transition énergétique, on n'arrivera pas à faire cette transition écologique.
Merci beaucoup Benoît Blotin, Vincent Charlet et Anaïs Vagilis d'avoir participé à cette émission.